Bon, au début, il y avait 25 liens, maintenant il n'en reste plus que 12, donc on va faire super vite pour que vous puissiez surtout repartir, parce que je crois que la pêche, on s'en fout, on veut repartir. Donc voilà. Donc, quel moyen pour réussir à transition vers une agriculture durable? Vous avez compris que c'était impossible de faire une synthèse, donc je vais faire surtout insister sur les points qui m'ont manqué, plutôt souligner des choses qui me semblent complémentaires à ce qui a été dit. Première chose, se rappeler quand même de l'enjeu. Parce que finalement, on l'a peu montré, mais ça, c'est l'enjeu. Objectif 2050, c'est un papier dans Science par un Américain. Et donc, vous voyez, le cercle, c'est où il faut être en 2050. En orange, c'est ce qu'il faut faire en termes de production. Mais en vert, c'est ce qu'il faut résoudre en termes de problèmes environnementaux. Et donc, c'est clair que l'agriculture du 21e siècle n'a rien à voir avec l'agriculture du 20e siècle. J'ai pas été très gentil avec mon collègue chercheur tout à l'heure, mais il était en train de parler d'une agriculture du 20e siècle qui vise à produire. L'agriculture du 21e siècle, c'est une agriculture aux enjeux multiples qui réconcilie environnement, social, santé et production. Et donc l'enjeu, il est là. Alors, si l'enjeu est essentiellement écologique, est-ce que les réponses sont écologiques? Oui, les réponses sont écologiques et on l'a vu tout au long de la journée. Et François déjà a fait une très belle synthèse là-dessus. Il faut repenser le lien entre écologie et agriculture. Tout le monde l'a dit, il faut modifier les pratiques. Et on l'a dit moins souvent, mais on l'a dit ce matin, et on le sait, il faut établir des nouveaux indicateurs pour intégrer justement cette dimension multiple des objectifs de l'agriculture. Mais en même temps, si les enjeux sont écologiques, les réponses ne sont pas seulement écologiques. Et c'est peut-être quelque chose qui m'a un peu manqué. C'est non, parce que d'une part, les systèmes sont verrouillés. Et il faut se rendre compte que si... C'est évident qu'il faut changer. C'est évident qu'il existe des nouvelles pratiques. C'est évident qu'il y a des absurdités en Bretagne et ailleurs. Tout ça est évident. Et pourtant, on ne change pas. Alors, c'est pas parce qu'on est méchant, c'est pas parce qu'on est bête, c'est parce que les systèmes sont verrouillés. C'est multifactoriel. J'ai pas le temps de vous développer ce point, mais c'est vraiment un point important. Si on ne réfléchit pas pourquoi les systèmes sont verrouillés, on ne les déverrouillera pas. Il faut aussi adresser le bon niveau. Et là, je pense qu'il faut être radical. Et pour moi, le bon niveau, c'est le niveau du système agraire, comme il a été défini dans l'école du Mont-Moisoyer, du Fumier, Cochet, c'est-à-dire le niveau où on réfléchit au niveau de l'exploitation dans la filière, et donc à cette échelle-là, je vais revenir là-dessus dans 2 minutes. Il faut réenquestrer agriculture et alimentation, et le changement est bien un changement systémique, et pas simplement un changement technique. Et ça, c'est un point qui me semble essentiel. Un mot qui m'a énormément manqué aujourd'hui, c'est le mot alternative. Trouver de nouvelles trajectoires pour l'agriculture, c'est toujours réfléchir en alternative. C'est toujours réfléchir en comparaison. Et je pense que si on veut éviter un discours normatif, si on veut éviter le discours du yaka, du il faut, du on doit, il faut simplement mettre les alternatives face à face dans une arène correcte avec des citoyens et des agriculteurs et d'autres acteurs pour les juger. Et à ce moment-là, on verra quelle est la meilleure alternative et on ne sera pas dans du normatif, on sera simplement dans quelle trajectoire prendre collectivement. Parce que des alternatives, dans les discours, il y en a beaucoup. Dans les discours, il y en a beaucoup, mais elles sont très déséquilibrées. Et je voudrais juste prendre une petite image que j'ai inventée avec une chercheuse ce midi. C'est en fait, c'est un peu comme la pompe à essence en Afrique. Vous êtes à la pompe à essence en Afrique avec votre mobylette, il y a un gros camion de l'armée qui arrive, il remplit son réservoir de gasoil, et puis il n'y a plus d'essence pour les mobylettes des gars qui sont à la queue leu-leu. Et en plus, le camion, c'est lui qui fait qu'il n'y a déjà plus d'essence dans la cuve, parce qu'il est déjà passé 10 fois avant. Et en fait, quand on discute des alternatives en agriculture, il faut se rendre compte que certaines alternatives, certaines trajectoires de l'agriculture sont responsables de la situation dans laquelle on est aujourd'hui. Et moi, je ne comprends pas qu'on puisse encore investir dans cette trajectoire-là. Et donc, il faut faire réellement un rééquilibrage de l'investissement dans les différentes trajectoires et se dire, maintenant, il y a des trajectoires où on investit de la recherche, où on investit des crédits impôts, des machins, des bazars, moi, je ne sais pas tout ce qu'on investit là-dedans, mais on arrête. Parce qu'il y a quelque chose qu'on n'a pas dit aujourd'hui, et de nouveau, mon collègue chercheur a oublié de dire ce matin, moi, je ne suis pas contre les OGM. Mais quand on finance les OGM, ça veut dire qu'il y a 9 autres projets qui ne sont pas financés. Parce qu'à l'Union européenne, il y a 1 projet sur 10 qui est financé. À l'ANR, il y a 1 projet sur 5 ou 6 qui est financé. Donc quand vous financez un projet, il y en a 4 autres qui ne sont pas financés. Et ce qu'il faut vraiment réfléchir, c'est Est-ce que collectivement, on est sûr qu'on a financé le projet le plus pertinent pour l'avenir de notre agriculture et pour l'avenir de notre société? Et si on n'est pas sûr, eh bien, il faut vraiment se poser la question. Et donc, il faut réinvestir dans une logique de rééquilibrage. Donc, ce n'est pas simplement investir des deux côtés. C'est investir ce qui n'a pas été investi jusqu'ici. Alors, pour ça, il faut évaluer. Et je trouve qu'une des difficultés, mais on a eu des bons exemples ce matin, une des difficultés, c'est de comparer objectivement différentes trajectoires, de comparer différents systèmes. Et c'est bien des systèmes qui font comparer et pas des techniques. Je pense que pour vraiment faire de l'agroécologie, il faut hiérarchiser l'essai en parcelle, l'essai technique, qui est nécessaire à certains moments, à une réflexion prioritaire et première sur le système que l'on souhaite. La technique, elle est au service d'un système. Et ce n'est pas le système, ce n'est pas la somme des techniques. Et donc, de nouveau, c'est la question de la porte d'entrée. Et donc, cette approche comparative me semble essentielle. Hubert Cochet faisait une conférence dans l'université la semaine passée. Il rappelait que le différentiel entre les différentes agricultures du monde était de 1 à 500 en 1850. Il est de 1 à 4000 aujourd'hui. C'est-à-dire que les agriculteurs les plus pauvres, ils produisent une tonne de grains par an. Et les agriculteurs les plus riches, un agriculteur américain peut aller jusqu'à produire 4000 tonnes de grains. Donc, dans un monde où les prix sont mondialisés, où les marchés sont mondialisés, si vous êtes dans un ratio de 1 à 4000 entre vos agricultures, il est clair qu'il y a un déséquilibre contre lequel il faut aller. Donc, ce n'est pas simplement un investissement dans deux voies qu'il faut faire, c'est un rééquilibrage d'une voie par rapport à l'autre, ou de plusieurs voies par rapport à une voie dominante. J'aime bien, d'ailleurs, dans cet esprit-là, l'idée de conformité à l'intérêt national, bien que, en tant que Belge, je suis toujours un peu gêné par votre idée d'intérêt national. Bon, mais nous, on a les intérêts notionnels, c'est encore pire. Et alors, une question, moi j'aime bien le mot évaluer, mais il y a aussi le mot légitimer. Je travaille sur les agricultures du Sud, sur ces petits agriculteurs qui produisent en fait sur un hectare avec une efficacité extraordinaire, des rendements bien plus grands que leurs voisins qui font de la canne à sucre ou du palmier à huile, avec un impact environnemental bien plus faible et une cohérence sociale maximale. Mais moi, l'objectif, c'est pas spécialement de les évaluer, c'est surtout de les légitimer, de leur donner un sens, par exemple, en recherche, parce qu'il y a très peu de papiers qui sont publiés sur ces agricultures-là. Et donc, c'est le concept de légitimation qui me semble aussi un concept important à mettre en avant. Et un concept qui me plaît bien, c'est le concept de radicalité. Alors, je sais que dans la politique française, le radicalisme est quelque chose de très complexe, mais je ne vais pas faire de la politique française. Je vais vous parler de quelque chose dont on n'a pas, étonnamment, pas parlé, très peu parlé aujourd'hui. C'est l'agriculture écologiquement intensive, qui est souvent, mais qui est un facteur de verrouillage pour moi en France. Très sincèrement, pour moi, c'est un facteur de verrouillage. Vous êtes, à mon avis, sur une trajectoire hyper intéressante. Comme je le disais le 18 décembre, toute l'Europe vous regarde. Vous ne pouvez pas foirer, parce que si vous ratez, tout le monde va se décourager. Mais malheureusement, vous avez quelque chose qui vous pourrit un peu la vie, qui s'appelle l'agriculture écologiquement intensive. Mon ministre de l'Agriculture belge, il m'a dit, j'ai vu le fol, il veut faire l'agroécologie. Moi, je vais plutôt faire l'agriculture écologiquement intensive, ça me semble plus prudent. C'est une prudence dangereuse. Et je vais vous expliquer pourquoi. D'une part, parce que c'est une approche purement technique. Ensuite, il y a une ambiguïté des concepts. On dit toujours, il faut produire toujours plus. Attention, on peut produire toujours plus. Comme l'a dit le ministre ce matin, si c'est pour gaspiller, ça sert à rien de produire plus. Et pour qui on produit et pourquoi on produit? Et donc, ce discours de dire, il y a moyen à la fois de produire plus et d'être écologiquement pertinent, je suis désolé, c'est ridicule. C'est ridicule, c'est pas ça qu'il faut dire. Ce qu'il faut dire, c'est que nous avons besoin d'une agriculture qui répond à un certain nombre d'objectifs. Quelle agriculture faisons-nous? Mais pas essayer de marier une carpe avec un lapin et puis de dire, ah, j'y suis pas arrivé, je suis désolé, quoi. Non, il n'y a pas moyen. Et donc, s'il faut réduire un petit peu la production, réduisons la production. Mais atteignons, optimisons nos objectifs. Et donc, il y a ce problème de la maximisation de la production qui vraiment doit être réglé. Et tout n'est pas possible. Alors, dans certains systèmes, c'est possible. C'est pour ça, peut-être qu'à Angers, on fait que les productions végétales et certaines productions végétales. Dans d'autres systèmes, c'est pas possible. Et donc, il faut vraiment se dire comment est-ce qu'on fonctionne par rapport à la réalité. Et puis, il y a une ambiguïté des acteurs qui font semblant de pouvoir tout faire. Ils ont un petit peu, comme ça, miraculeux, quoi. Et moi, il y a un maire, toute petite histoire, au Luxembourg, il y a une commune qui s'appelle Beckrich, qui est un modèle en développement durable. Je vous conseille d'y aller voir. Et ils ont une usine qui produit de l'eau cristalline. Vous avez peut-être déjà vu cette eau, c'est une eau minérale. Et on leur a proposé de doubler la taille de leur usine parce que ça marchait bien. Et la commune a voté qui refusait le doublement de la taille de l'usine parce qu'en fait, ils étaient au plein emploi et ils étaient contents avec l'usine qu'ils avaient. Ils n'avaient pas envie de grandir. Et le maire de Bekrich a dit, et ça m'a frappé, et je le répète chaque fois que j'ai l'occasion, le développement durable, c'est aussi la capacité de dire non. C'est aussi la capacité de renoncer à certains objectifs, parce que renoncer à certains objectifs, c'est être cohérent sur le long terme, alors qu'à court terme, c'est peut-être quelque chose qui pourrait sembler correct. Et donc, parce qu'il y a des acteurs ambigus, hein, parce que je ne savais peut-être pas, mais McDonald's, il fait de l'agroécologie. Hein. Bon, oui, ouais, c'était marqué, hein. La préservation de la biodiversité, un des axes prioritaires de notre stratégie agroécologique. C'est le site de McDonald's. Alors, pourquoi est-ce que l'agriculture écologiquement intensive est un piège? Parce qu'en fait, l'agriculture écologiquement intensive, elle ne couvre en fait qu'essentiellement des questions écologiques par une approche basée sur les techniques et les pratiques, et un tout petit peu d'aspect économique, sans vraiment discuter par exemple la question des dépendances, la question des externalités, la question de l'économie sociale et solidaire. Or, une vraie agroécologie, elle se base sur les quatre dimensions qui sont là. D'une part, la dimension écologique, j'en conviens. D'autre part, la dimension économique, et on l'a bien dit aujourd'hui, la notion d'économie solidaire, mais aussi discuter la question de la dépendance économique, des externalités, etc. La dimension sociale, et notamment, non seulement l'autonomie fourragère, mais l'autonomie de décision. Est-ce que tous les agriculteurs aujourd'hui en France sont autonomes dans leurs choix? Je ne suis pas si sûr que ça. La diversité, les rapports de force, et la question de la santé que j'ai mis dans le social. Et puis, il y a toute la question des savoirs, on en a parlé au cours de la journée, mais les savoirs, la co-construction, les processus de décision, c'est une question qui fait clairement partie de la discussion de l'agroécologie. Et donc, un modèle qui cache la moitié de la réalité me semble pas un modèle d'avenir. Alors, je dis pas qu'il faut pas l'utiliser pour faire un peu de saut de mouton et passer par cette étape-là pour aller vers autre chose. Mais l'agriculture écologiquement intensive, ça peut pas être une fin en soi. La seule chose que je veux dire là-dessus. Alors, on parlait de définition de l'agroécologie. En Belgique, comme on était un petit peu plus timide que vous, on a passé entre académiques une bonne année à essayer ensemble de dire qu'est-ce que ce serait pour nous l'agroécologie. Donc on a fait un papier qui est disponible sur agroécologie.be, qui fait une dizaine de pages et qui propose, dans un cadre historique, au départ de la lecture des différentes références, qui propose une définition de l'agroécologie. Je ne vais pas vous la détailler, simplement insister qu'elle articule à la fois des principes écologiques historique, mais aussi des principes méthodologiques et des principes socio-économiques, de nouveau les dimensions dont je vous avais parlé à la diapositive précédente. Et insister sur le fait que l'agroécologie, c'est à la fois des pratiques et à la fois des principes. Et donc, il ne faut pas confondre les deux. On peut rentrer par les pratiques, mais réduire l'agroécologie à une somme de pratiques, ce serait en fait un peu méconnaître la richesse du concept et l'intérêt du concept d'agroécologie. Un problème qu'on a tous, et moi aussi, là maintenant dans mon discours, c'est de dépasser le normatif. Donc je pense que pour dépasser le normatif, pour éviter de dire à l'agriculteur ce qu'il doit faire, il faut inventer des nouvelles formes de gouvernance, il faut revoir les systèmes de formation, et un point qui m'a manqué aujourd'hui, c'est construire les capacités. En fait, on a quand même un problème, c'est que si le ministre venait aujourd'hui nous donner 1 milliard d'euros et disait « Allez, en route pour l'agroécologie », on n'a pas les capacités pour utiliser intelligemment 1 milliard d'euros aujourd'hui. Et donc, il faut reconnaître que nous avons des capacités limitées pour ce modèle. Il faut investir un maximum de ressources, un maximum d'intelligence, un maximum d'argent, un maximum de motivation pour construire ces capacités. Mais il faut pouvoir respecter notre engagement. Et donc, il faut mettre nos objectifs à la hauteur de nos moyens. Et une délimitation très claire, c'est la formation. On ne forme pas un agriculteur, un agronome, un chercheur en 2 ans. Et donc, on n'aura pas les capacités de recherche, d'expérimentation locale, etc., aussi rapidement que ça. Il faut aussi dépasser les images. Les images nous aident beaucoup. Les images nous aident à montrer qu'il y a des choses qui fonctionnent, mais les images sont souvent autour des pratiques. Et donc, quand on travaille sur les images, on travaille beaucoup sur les pratiques. Or, ce qu'il faut, c'est le système alimentaire, il faut le repenser, beaucoup l'ont dit. Mais le problème du système alimentaire, c'est qu'on a des difficultés à le rendre visible en images. Donc là, il y a un travail, je crois, pour les gens spécialistes de la communication, spécialistes de l'image, d'essayer de, de dépasser le discours sur les pratiques. Je pense qu'il faut aller vers quelque chose qui permette de rendre compte des systèmes alimentaires. Alors, bien sûr, on a Olivier. Hein. Olivier parvient à nous faire passer des systèmes alimentaires avec sa parole. Mais quand même, il y a un travail, je pense, là, pour le commun des citoyens, de bien faire comprendre ce concept. Et puis, il faut pas avoir peur de critiquer, mais il faut aussi construire. Quand on est ensemble, il y a souvent des débats, agriculture et biologique. À l'intérieur de l'agriculture biologique, il y a encore des discussions entre agriculture biologique et certaines formes d'agroécologie. Il y a des discussions sur la conservation des sols, sur l'agriculture de conservation. Il y a des débats. Je pense que c'est important d'accepter ces débats, mais en même temps, vis-à-vis de l'extérieur, quand on partage une conviction sur les principes de l'agroécologie, d'avoir au moins la capacité de dire sur quoi on est d'accord. J'ai parfois l'impression qu'on passe beaucoup de temps à dire sur quoi on n'est pas d'accord, alors qu'il y a quand même des fondamentaux sur lesquels on est d'accord. Tous d'accord. Peut-être même avec les gars de l'agriculture écologiquement intensive, il y a des accords. Par contre, je crois que l'accord, il est sur un horizon. Moi, je suis d'accord avec mes collègues de l'agriculture écologiquement intensive sur un horizon très court, mais pas sur un horizon très long. Et donc, je pense qu'on pourrait arriver à avoir des accords qui sont proportionnels à l'engagement que l'on partage en termes d'horizon. Et alors, j'ai bien aimé, et j'insiste là-dessus, j'aime pas trop l'idée d'innovation par contrainte, parce que quelqu'un l'a dit, il faut plutôt anticiper que subir. Et donc, si on veut plutôt anticiper que subir, il faut innover par envie et pas innover par contrainte. Innover par envie d'anticiper, c'est chouette aussi d'innover par envie. Bon. Alors, ne pas oublier de changer d'échelle. Il faut passer de la plante au système agraire. Il faut passer de la parcelle au paysage et du paysage au système alimentaire. Ce changement d'échelle est un réel défi. En termes de formation, pour moi, c'est le défi le plus compliqué. Il y a plein de manuels sur les plantes, il y a plein de manuels sur les parcelles. Moi, je suis statisticien de formation, il y a plein de dispositifs statistiques pour faire des essais agronomiques classiques. Quand vous devez vous adresser au paysage, quand vous devez vous adresser aux systèmes agraires, il y a encore plein de choses à inventer parce qu'on n'a pas les outils. Et donc, ce changement d'échelle est aussi la mise au point de nouvelles méthodes et de nouveaux outils. Et il faut aussi penser à l'échelle collective. Et là, j'ai un problème avec l'idée de singularité et de diversité. C'est vrai que l'agroécologie, c'est beaucoup de singularité, c'est une adaptation au contexte local, c'est beaucoup de diversité. Mais alors, en quoi c'est un projet collectif? Et finalement, si c'est simplement le discours qui articule les singularités, j'ai un peu peur. Si c'est simplement le discours du ministre qui est la somme des singularités, j'ai un peu peur. Et donc, je pense qu'il faut qu'on réfléchisse à la façon d'articuler ces singularités et un projet collectif. Et de nouveau, comme tout à l'heure, sur l'idée de sur quoi sommes-nous d'accord, qu'est-ce qu'on a besoin comme cadre collectif, tout en respectant nos singularités. Et ces concepts-là, moi je l'ai appris en Afrique, où vraiment je travaille sur trois pays, le Rwanda, le Burundi et le Congo, qui sont très semblables en termes de systèmes agraires, mais où il y a vraiment des respects pour les modes de fonctionnement différents. Et je crois que le concept de respect m'a peut-être un petit peu manqué. Alors le respect, ça ne veut pas dire la naïveté. Le respect, c'est essayer de comprendre comment l'autre fonctionne avant de lui dire comment il doit faire. Pour moi, c'est ça, comme ça que je définirais le respect. Et donc, l'objectif global, pour moi, c'est trouver une cohérence et essayer de converger. Mais de nouveau, sans naïveté, peut-être que dans la convergence, il y en a qui vont pas être sur le bateau, parce qu'on est sur une espèce d'arche de Noé, il faut qu'elle flotte. Hein. Bon. Voilà, j'en termine avec 4 dias. D'abord, les niveaux d'action. Au niveau du politique, j'ai essayé d'un peu donner du boulot à tout le monde, hein. Donc, dire la trajectoire ou les trajectoires, rétablir l'équilibre. Hein. Là, je reviens sur ce concept, mais je pense que le politique doit être conscient qu'il est responsable de ce que le politique a fait avant lui. Et donc, il est responsable maintenant de corriger les déséquilibres, à la fois en recherche, à la fois, on l'a dit tout à l'heure, de la façon dont l'agroalimentaire a été favorisé et est encore favorisé dans les systèmes. Renforcer les synergies, c'est le rôle du politique aussi. Et faire ce qui est possible tout de suite. Ça, c'est Marie-Monique qui me l'a soufflé tout à l'heure. Mais finalement, il y a des choses qu'il y a moyen de faire tout de suite. Faisons-les. Au lieu de se compliquer la vie à réfléchir à des plans et tout. Et réallouer les moyens. Je reviens avec mon problème de rétablir l'équilibre. Les agriculteurs, on l'a dit, ils sont les premiers sans doute à être capables d'expérimenter des nouvelles stratégies. Il ne faut pas croire que le partage des expérimentations en agriculture se fait de façon tout à fait spontanée. Les agriculteurs sont avant tout des travailleurs indépendants. Il y a une compétition aussi parfois entre systèmes. Et donc ce partage n'est pas spontané, mais il y a des formes d'organisation. On a parlé du réseau semences paysannes. Il y a des formes d'organisation qui permettent le partage de certaines ressources. Et je pense que ce choix de partager certaines ressources est un apprentissage. Et c'est un mot important pour moi, cette notion d'apprentissage. Et alors, participer à un effet de réalité, je ne résiste quand même pas à vous raconter une toute petite histoire qui m'est arrivée il y a maintenant une dizaine d'années chez Bonduelle, où on m'avait invité pour parler des plantes transgéniques. Et j'avais dit, mais écoutez, si vous avez des plantes transgéniques qui vous permettent de diminuer votre consommation en pesticides, vous pourriez peut-être envisager les plantes transgéniques et vous diriez que ça diminue votre consommation de pesticides. Et les gens de la recherche étaient super enthousiastes. Ils m'ont dit, waouh, ouais, super, enfin un gars qui est pour les OGM. Et puis les gens du marketing m'ont regardé tout désolé. Ils m'ont dit, mais monsieur, on n'a jamais dit aux gens qu'on utilisait des pesticides. Et donc le problème, c'est que l'agriculture, et Philippe l'a bien pointé tout à l'heure, hein, l'agriculture, elle a une image qui correspond absolument pas à sa réalité. Les chiffres que vous avez cités pour les poulets, les chiffres que vous avez cités pour le porc et tout ça, quand vous dites ça à un repas de famille, les gens sont, ils arrêtent de manger. Hein. Ils arrêtent de manger. Donc, il y a quand même un problème. Et là, je pense qu'il y a une responsabilité, très sincèrement, il y a une responsabilité, mon beau-père est agriculteur, il y a une responsabilité du monde agricole, parce qu'il y a une responsabilité de d'avoir caché certaines réalités depuis très longtemps, et maintenant on est mal pris, quoi. Hein, bah, c'est une expression belge, mal pris, gros. Alors, les chercheurs, là c'est facile. Il y a une nouvelle éthique, et là je vous conseille, ceux qui sont chercheurs, il y a un magnifique document par un collègue qui s'appelle Tom de De Waardere. Si vous ne savez pas retenir le mot en flamand, je vous m'envoyez un mail. Il a fait un rapport pour le ministre du Développement Durable en Belgique. Il a passé 6 mois à ça, et la conclusion de son rapport, elle est double. C'est un, que la recherche actuelle, pour la plupart des recherches, notamment en économie, mais aussi en biologie, sont des recherches sur des mondes virtuels, sont plus des recherches sur la réalité, mais sont des recherches sur des modèles. Et donc il y a une pathologie de la recherche virtuelle. Et la deuxième chose, c'est que si on veut faire une vraie recherche qui est utile pour le développement durable et pour l'agroécologie, elle doit s'appuyer sur 3 principes. Le premier, c'est le principe d'interdisciplinarité. Comme je vous l'ai dit, l'agroécologie, ça ne peut pas se réduire à une seule discipline. Le deuxième, c'est le principe de transdisciplinarité, c'est-à-dire la capacité à travailler, à co-construire avec les acteurs. Donc non seulement avec les autres disciplines, mais avec les autres niveaux d'implémentation de la recherche. Et la troisième qui me semble très importante, c'est que la recherche pour le développement durable, elle ne doit pas être éthiquement neutre. Vous pouvez déclarer vos valeurs et vous pouvez dire « je recherche dans telle direction parce que ça correspond à certaines valeurs ». Donc l'idée un peu positiviste que la recherche est neutre, c'est ça qui nous a amené aux OGM où les gens ont dit « mais moi je fais juste de la recherche ». Je suis à l'EFSA, on me dit « il faut évaluer les OGM science-based ». Vous croyez que l'EFSA, l'expertise de l'EFSA, elle est uniquement science-based, qu'il y a uniquement de la science qui intervient? Mais alors quand vous dites ça, vous cachez en fait le fait qu'il y a des choix éthiques qui sont faits, on les cache derrière une fausse neutralité. Et donc il faut assumer que certains choix de recherche, en termes de sujet, je ne suis pas pour changer les niveaux de rigueur, mais il faut dire, moi je choisis de travailler sur tel sujet parce que ce sujet-là, il a une pertinence en termes de valeur pour la société, pour moi-même, et je ne travaillerai pas sur tel autre sujet. Et faire ça, ça permet de continuer à être chercheur, mais à essayer de réfléchir à la pertinence de ce qu'on fait. Dernier point, les citoyens, je pense qu'il y a une prise de conscience nécessaire par les citoyens des trajectoires possibles, et je pense qu'on a un travail à faire en tant que citoyens et avec les citoyens pour expliquer ces trajectoires. Il faut dessiner des nouveaux partenariats, et il faut entrer dans le gagnant-gagnant. Parce que pour terminer, je voudrais bien dire, en fait, il y a un truc de fou avec l'agroécologie. C'est qu'on parle toujours des contraintes, de l'innovation par contrainte, etc. L'agroécologie, l'agriculture biologique, les agricultures qui se basent sur le respect des cycles naturels, le respect des savoirs, c'est des agricultures win-win. C'est des agricultures où à la fin, ça vous coûte moins, ça vous stresse moins, et ça vous permet de vivre mieux. Le problème, c'est le passage du modèle actuel à ce modèle-là. Mais une fois qu'on y est, normalement, et le film de Marie-Monique Robin en témoigne magnifiquement, on voit que les gens, ils sont bien dans leur peau, ils sont heureux de ce qu'ils font. Alors, le problème, c'est le passage. Mais donc, il faut arrêter de donner l'impression que si on pousse un modèle agroécologique, on doit donner des primes. Par exemple, moi, je suis un peu inquiet avec les primes pour les MAE, tout ça. Je dis pas qu'il faut les enlever, hein. Le ministre n'écoute pas, ou le représentant du ministre n'écoute pas, mais l'idée qu'on donne des primes pour faire quelque chose qui, normalement, va vous rapporter, ça me pose problème. Il faut vraiment être clair, on donne les primes pour une transition. On donne une prime pour une conversion. Mais à long terme, les systèmes, etc., ça doit vous rapporter. Alors, ouais. L'agroécologie, finalement, en vous écoutant, je me suis dit que c'était sexy. L'agroécologie, c'est sexy. C'est le désir, pas la contrainte. C'est préférer le naturel à l'artificiel. C'est sensuel, culturel, c'est une question de goût. Ça, c'est Philippe Pointreau qui l'a dit, c'est pas moi. Les résultats sont parfois inattendus, et ça, j'y tiens. C'est quand même plus gai une vie où les résultats sont inattendus, les amis. C'est une belle utopie, c'est un partenariat gagnant-gagnant. Donc, moi, je vous engage à faire de l'agroécologie, c'est la New Romance. Pour moi, l'agroécologie, c'est un projet romantique.
Quel talent, mon cher.
C'est une vision idéalisée de la réalité. C'est surtout un roman de la vie. Et là, j'ai volé l'idée, et j'en ai pas honte du tout, parce que j'admire cette personne. J'ai volé l'idée à Pierre Radan, que beaucoup d'entre vous connaissent, et qui disent le problème du XXIe siècle, c'est l'histoire que l'on raconte à ses enfants. Moi, j'ai 3 adolescents à la maison, et ils commencent à en avoir marre de mes histoires, parce que je râle tout le temps sur Monsanto, je m'énerve sur les plantes transgéniques, et tout ça.
C'est une saine colère.
Il faut trouver une histoire positive à raconter aux enfants du XXIe siècle. Il faut les faire rêver. Et l'agroécologie, c'est un roman qui peut faire rêver. Et dans ce sens-là, je pense que c'est vraiment important qu'on retienne tous que l'agroécologie, c'est un projet romantique, parce que pour changer, il faut rêver, et faire rêver. Et alors, on va sauter au-dessus du mur, tous ensemble. Et vous pouvez venir chez nous, en Ardennes. C'est hier, et le printemps est enfin arrivé en Belgique. Et j'en suis tout heureux.
Merci à Philippe Barré pour cette superbe conclusion qui nous donne la pêche, parce que la pêche était aussi dans l'air du temps et il y en a besoin. Cette année, donc, la loi d'avenir agricole, on va travailler là-dessus avec le ministère pour faire avancer les choses. Merci à toutes et à tous d'avoir été patients. Ça a été une journée extrêmement riche de plein d'informations et qui va permettre pour nous de lancer ou poursuivre les débats.